Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici, Kelly Méran. Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh !
Réfléchissez.
Dégueulasse.
La vie a-t-elle un sens ?
Qui suis-je ?
Il est complètement fou ce mec.
Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Nicolas Delon. Il est architecte et cofondateur du collectif Encore Heureux. Nicolas défend la sobriété architecturale, on va en parler. Architecte engagé, il souhaite apprendre et transmettre à faire mieux avec moins. La frugalité, c'est son terrain de jeu. Frugal signifie « se nourrit de peu », qui vit de manière simple. Son approche fait appel à des techniques anciennes en les couplant à la technologie contemporaine pour adresser une problématique majeure. Nous sommes à quelques décennies de l'épuisement complet des ressources qui permettent de construire. Il interroge, il questionne, un devoir des architectes selon lui. Le métier d'architecte a un spectre très large de questionnements, notamment sur les matériaux, sur l'usage, c'est-à-dire à qui s'adressent les bâtiments, la pérennité, la durabilité du bâti, sa consommation énergétique ou encore, plus subtilement, le désir généré par les bâtiments produits. A-t-on envie de passer du temps dedans ? Il prend soin à inclure dans sa réflexion métiers, compétences, connaissances diverses, telles que des sociologues, des anthropologues, des géographes, des ingénieurs, des bureaux d'études. L'architecte est un réel chef d'orchestre qui met en musique une intention et aussi une attention aux ressources. Il a collaboré à travers le collectif Encore Heureux avec Nicolas Détry, de l'épisode 22 sur les lieux infinis. Ils étaient commissaires du pavillon français de la 16e Biennale d'architecture de Venise, et a présenté 10 lieux pionniers et expérimentaux. Des lieux ouverts, possibles, non finis, qui instaurent des espaces de liberté où on peut participer, où on peut faire, où on peut inventer, où on peut construire. Avec Nicolas, j'aimerais parler de sobriété architecturale, de l'évolution du métier d'architecte qui est passé de cette fameuse logique d'intention à un architecte de l'attention, de l'habitabilité du monde et de l'évolutivité du bâti. Et enfin, de comment penser les lieux qui fabriquent la ville, qui font que les gens se surprennent eux-mêmes, se rencontrent, ces lieux qui transforment la ville et la vie. Très bonne écoute. Nicolas, bienvenue sur le podcast Insensé. Comment ça va aujourd'hui ?
Bonjour, ça va bien.
Je suis ravie de te recevoir. J'aimerais commencer cette interview avec une question assez simple qui concerne ton parcours, où j'aimerais explorer avec toi non pas ton CV, mais plutôt tes chemins de traverse, là où tu as pris des bifurcations qui t'ont amené à ce que tu fais aujourd'hui.
Alors la première bifurcation, elle est assez importante parce qu'il se trouve que quand j'ai grandi en Aveyron, dans une petite ville qui s'appelle Villefranche-de-Rouergue, et quand je me suis retrouvé en terminale avec ce choix cornélien de savoir quelle sera la suite, et j'avais assez peu d'idées, ou en tout cas j'étais intéressé par trop de choses pour choisir. Et mes parents sont médecins, je faisais beaucoup d'équitation et donc j'étais très intéressé aussi par ce domaine-là. Et j'étais intéressé par une grande diversité de sujets. Et du coup, je suis allé voir avec ma mère un conseiller d'orientation qui m'a posé une cinquantaine de questions. Et à la fin de ces questions, il m'a dit bah, il y aurait un métier qui rassemble tout ça, c'est architecte. Et je me rappelle précisément ce moment-là où en fait, je connaissais le mot, mais je n'avais aucune idée du métier.
Okay.
Donc c'est vraiment, pour le coup, ça montre que parfois les destins se créent de manière inattendue. Et du coup, ça a été ce choix de dire, plutôt que de se resserrer sur une discipline après des études générales qu'on a jusqu'au lycée, en fait, l'architecture l'enseignement de l'architecture est assez incroyable parce que vous continuez à faire de l'histoire, des mathématiques, de la résistance des matériaux, de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie. Donc il y a comme ça une diversité d'apprentissage qui est incroyable.
Et donc ça c'est ta première bifurcation. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a une belle intuition sur l'orientation, ce qui est a priori, en tout cas je juge peut-être un peu hâtivement les conseillers d'orientation, mais
c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que
c'est beau.
Parce que je trouve qu'il le mérite.
Il le mérite, on le salue.
Voilà, exactement.
Trop bien.
Et ensuite, ça, c'était le début de cette découverte de ce monde incroyable qu'est l'architecture, et que j'ai commencé à l'école d'architecture de Toulouse. Et ensuite, j'ai souhaité du coup prendre une vraie bifurcation géographique, et je suis parti faire ma quatrième année à Montréal, au Canada, où là, ça a été une forme de décentrement personnel, de quitter sa famille, ses proches, ses amis, et de se retrouver à 21 ans seul sur un continent, et puis d'explorer d'autres façons d'envisager la vie, la question urbaine, la question constructive, etc. Et donc ça a aussi été un moment très marquant, à la fois de grande liberté et aussi de grands questionnements. Et donc ça a été une deuxième bifurcation. Et la troisième, pour boucler la boucle, ça a été... venant du sud de la France, avec cette défiance envers Paris et la capitale, où on a grandi dans le sud de la France, hein, avec cette idée qu'il n'y avait quasiment rien d'intéressant à Paris. Et en fait, le fait d'être parti à Montréal et de se dire, mais en fait, tout le monde quand même regarde cette ville et qu'est-ce qui s'y passe. Et du coup, après Montréal, j'ai décidé de venir à Paris. Et donc, ça a été aussi, plutôt que de rentrer de là où je venais, ça a été de poursuivre ce cheminement et de découvrir cette ville à la fois dure et incroyable, surprenante et épuisante, voilà tout ce qu'est Paris.
Que tu n'as pas quitté depuis.
Exactement.
Et tu as créé le collectif Encore Heureux à la vingtaine, à peu près, c'est
oui.
Ça c'est issu de ces questionnements qui ont lieu à Montréal.
C'est issu tout d'abord d'une rencontre avec Julien Chopin, avec qui nous étions en première année à l'école d'architecture de Toulouse. Donc c'était une rencontre amicale d'abord, très forte, et ensuite le sentiment qu'on était très complémentaires, qu'on avait beaucoup de plaisir à concevoir ensemble. Et la conception, c'est important de parler, parce que c'est quelque chose de très fragile, de très intime aussi. C'est-à-dire que c'est explorer à la fois des pistes, des intuitions, accepter de se tromper, accepter de se faire confiance. Et avec Julien, on a, dès le début, en toute première année, on a senti qu'on avait des accroches fortes. Et ensuite, je suis allé à Montréal, Julien est allé à Clermont-Ferrand, et on s'est retrouvés à Paris ensemble. Et on a été colocataires, en se disant, on est colocataires, on a envie de faire des projets ensemble. Et donc là, c'est là où, en 2001, on a fait un tout premier projet dans la rue, un projet sauvage qui s'appelle Herbe Folle, qui était l'idée de venir profiter du souffle des ventilations du métro pour accrocher... une matière très très légère qui venait modifier le quotidien. Et donc c'est à l'occasion de ce tout premier projet qu'on a décidé de lancer ce collectif, en se rendant compte qu'on avait envie de faire des projets avec beaucoup de gens, des amis, des gens qu'on allait découvrir, des gens à qui on proposait de nous rejoindre, et que ce nom-là allait aussi nous donner une sorte de vision, de cadre partagé sur ce rapport entre la quantité et la qualité, mais on en reparlera, je pense.
Ouais, ça m'intéresse de savoir à quel moment tu as commencé à questionner tout ça par rapport à peut-être tes études d'architecte, et comment tu as décidé de transformer cette matière, cette connaissance à toutes ces valeurs que vous portez au sein du collectif. On va rentrer un petit peu dans la matière dans un second temps, mais la vingtaine, c'est assez tôt pour questionner. Peut-être que certains questionnent leur métier au bout de, j'en sais rien, une dizaine d'années de bagage. Toi, ça s'est fait pratiquement
tout
de suite.
On était encore
étudiants,
et donc c'était presque avant de rentrer dans le métier. Ça, c'était intéressant. C'est peut-être aussi qu'avec Julien, on sentait qu'une partie du métier d'architecte plus classique ne nous convenait pas forcément. On n'avait pas d'urgence à construire. On n'était pas obsédé par le fait de construire et de dessiner des choses, alors que d'autres de nos camarades pouvaient avoir cette envie pressante. Et par contre, on avait envie de se confronter tout de suite au réel, quitte à s'éloigner de l'architecture. Et donc, on est rentré dans ce métier-là plutôt par des formes très légères d'installations artistiques, de scénographie, de choses beaucoup plus simples et rapides que l'architecture, parce que l'architecture, c'est très complexe et c'est très long. Et donc peut-être qu'on avait aussi ce sentiment de quand on a 22, 23 ans, de vouloir expérimenter tout de suite du réel et avoir peut-être une maîtrise plus grande de cette complexité avant ensuite de la découvrir.
Et de voir le résultat peut-être tout de suite de ces efforts.
Exactement, aussi, peut-être.
J'aimerais rentrer sur le sujet de la sobriété architecturale. On dirait qu'il y a deux gros mots là-dedans. Est-ce que, ok, la définition selon Larousse, c'est se comporter avec retenue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour, sur un projet d'architecture? Comment on définit ça?
Alors, la retenue, c'est intéressant parce que les mots nous aident à penser et nous permettent de penser. Et du coup, on pourrait considérer qu'une retenue serait le fait de se limiter. Et même ce mot de la limite, il est très important parce qu'on a souvent vu une limite comme quelque chose de négatif ou de péjoratif, ou on va dire un enfant ne dépasse pas les limites, ou il y a ce mot de la limitation de vitesse, comme s'il fallait comme ça qu'on soit enfermé dans des règles ou dans des sujets. Et assez tôt, et on va dire de manière plus intense ces dernières années, on partage assez fortement cette notion centrale que l'épuisement complet des ressources et de se retrouver à 7, 8, 9 milliards d'humains demain sur une planète dont les ressources sont finies, nous oblige à penser la limite comme étant un élément central de nos vies, de nos choix, de nos positions politiques, de nos engagements. Et cette limite-là, elle dépasse tout, en fait. Elle transcende même toutes nos vies, nos villes, nos désirs, nos façons de se déplacer. Elle devrait transcender. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans le déni de cette limite. On est dans le déni parce que, notamment, nos sociétés riches du Nord occidental ont été dans cette démesure, dans cette gabegie de matière qui a fait, on va dire, les 50 dernières années et même au-delà. Donc, c'est la génération de nos grands-parents, nos parents et la nôtre, où ces fameux points de croissance qu'il fallait aller chercher avec les dents et cette consommation gigantesque de tout, en fait. Il se trouve que nous, dans notre domaine, on essaie de parler de l'architecture, mais on pourrait parler d'agriculture, on pourrait parler de biens de consommation, on pourrait parler de la fast fashion, on pourrait parler de quasiment tous les sujets qui nous entourent, du rapport à la technologie, du rapport au transport, etc. Et nous, en tant qu'architectes, on a eu... au milieu à peu près des années 2010, dès qu'on a fait des premiers projets, en fait, dès qu'on a commencé à construire, on a été confronté instantanément à cette gabegie de matière, à ces déchets de la construction qui sont gigantesques. En Île-de-France, 75% des déchets sont des déchets issus de la construction. C'est gigantesque, mais personne ne le sait, c'est une partie invisible. Et ensuite, il y a 15% qui sont des déchets industriels et 15% des déchets ménagers. Donc quand on demande aux gens de trier, de classer ces déchets, etc., il faut déjà considérer que ça représente que 15% du global. Et puis bon, ensuite, on pourra aussi en reparler. On ne sait pas trop toujours où vont les choses que l'on trie. Mais on a été percuté par le fait que, après 6 ans d'études, on ne nous avait jamais parlé de l'épuisement des ressources. On ne nous avait jamais dit que pour faire du béton, il faut du sable, que le sable est en voie de disparition. Parce que le sable du désert, on ne peut pas faire du béton avec, parce que le grain a été roulé par le vent, il est trop rond. Donc il faut du sable alluvionnaire qui vient de l'érosion donc qu'on trouve dans les rivières ou dans la mer. Et donc quand on sait les quantités stratosphériques de béton consommées par seconde ou par minute dans le monde, on voit bien qu'on est obligé de remettre beaucoup de choses en cause.
Et petit aparté sur le béton, justement, avec quoi on peut construire à part le béton?
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que de se dire avant le fait de construire, il faudrait d'abord voir ce qui est déjà là. Et donc aussi dans la sobriété ou dans la frugalité, il y a vraiment le fait de replacer au cœur de nos préoccupations l'existant et de considérer qu'il y a déjà énormément de choses construites. Il y a aussi énormément de bâtiments non occupés, mal occupés, sous-occupés ou même de bâtiments vides. En Île-de-France, c'est des millions de mètres carrés de bureaux notamment qui sont vides. Donc on pourrait considérer que pas question de continuer à construire tant qu'on n'a pas occupé, utilisé ces bâtiments-là. C'est comme si vous aviez un frigo qui était encore plein de nourriture et puis que votre sujet était de savoir qu'est-ce que vous allez acheter au marché demain. Il faudrait d'abord se dire, peut-être qu'il faut d'abord manger ce qui est là. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de se dire, le béton est tellement précieux, entre guillemets, si on considère que sa ressource est en train de s'épuiser, qu'il faut s'en servir au bon endroit, au bon moment, qu'il faut le combiner avec d'autres matériaux et donc notamment avec des matériaux biosourcés qui sont les seuls qui peuvent se renouveler. Donc c'est le bois, toutes les fibres végétales, la terre d'une certaine mesure, ou la pierre, parce qu'on sait que la pierre, elle a une pérennité gigantesque, et ça, c'est l'histoire de l'architecture. Le béton, en fait, il arrive fin 19e, et il est déployé massivement dans les années 50, il commence entre deux guerres un peu s'exciter, mais le gros déploiement de la construction en béton, qui va très vite, qui est très économique, qui est aussi un moyen de domination et un outil du capitalisme redoutable, parce qu'il permet d'être déployé dans le monde entier, donc sur une globalisation qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, a fait ses preuves. Du coup, ce béton, on considère qu'il faut en consommer moins et qu'il faut en consommer que celui qu'on consomme, il doit être mieux utilisé.
Et justement, dans une de tes conférences que j'ai trouvées, c'était à la Bibliothèque publique de l'information, tu parles d'un bon dosage, du bon dosage comme un chef de cuisine. Je trouvais ça intéressant de regarder les matériaux de construction comme des ingrédients d'une recette. Il y a une question en tenant compte du coup de la rareté de certains matériaux et d'autres qui ont une production généreuse. Comment savoir ou comment avoir le recul sur la fiabilité de ces matériaux-là dans la construction, qui du coup on aura du recul que dans un certain nombre d'années?
Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est de considérer nos décisions de concepteurs comme engageant le temps long. Le temps long, à partir du moment où on utilise des matériaux qui des fois ont mis des millions d'années, parce que par exemple quand vous utilisez du sable, le sable il a mis des millions d'années à exister. Donc on est connecté. Quand vous utilisez du bois d'œuvre, donc du bois avec lequel on construit un arbre, pour qu'il soit propre à être un matériau de construction, c'est 50, 60, 80 ans. Donc quand vous dessinez deux traits en disant là je vais faire une poutre en bois, il faut se dire que vous faites appel aux 80 ans qui ont permis à cet arbre d'exister. Donc ça, c'est ce qui est rétrospectif. Et ce qui va être prospectif, ça va être la durabilité, la solidité, la transformation aussi possible du bâtiment, pour considérer que si vous dessinez quelque chose qui dans 5 ans doit être démoli parce qu'en fait il n'est plus du tout adapté aux usages ou aux fonctions ou aux besoins de la société, bah, du coup vous pouvez le construire de manière très frugale, mais en fait il va servir à rien. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que ça c'est plutôt le côté prospectif. En quoi votre dessin, votre bâtiment va être en capacité d'absorber tout ou partie, parce que il faut aussi répondre à des besoins du moment. Mais imaginez que vous avez un double engagement. Engagement sur votre prescription de matière, donc qui est plutôt rétrospectif, d'où viennent les matériaux, et engagement sur le futur du lieu ou du bâtiment que vous dessinez, qui va être aussi ce temps long de la vie du bâtiment.
Je rebondis sur ce point et sur un autre point que tu as mentionné précédemment, en disant regardez qu'est-ce qui existe déjà avant de penser à construire. Et tu expliques que cette logique de l'intention à la logique de l'attention, donc le fait d'observer, de regarder ce qui est là, c'est ça que tu entends par ça, donc savoir qu'est-ce qui existe et aussi de regarder le bois, cette matière, comme quelque chose qui a poussé pendant de nombreuses années. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi dans l'attention?
En fait, ce passage de l'intention à l'attention, il est assez, il est important dans notre pratique et dans notre façon d'aborder le métier, parce qu'il se différencie aussi de ces architectes avec lesquels on a peut-être grandi ou qu'on a étudié à l'école, où il y avait vraiment cette idée du geste fort et qui était pour le coup vraiment une intention. Voilà, j'ai une vision. Voilà, je pose un objet dans la ville, ça va être une tour, ça va être un opéra, ça va être ce que vous voulez. Il va briller parce que je veux qu'il brille, et il va y avoir des petits oiseaux parce que j'aime bien les oiseaux.
Il y a un genre d'ego trip un peu dans ce...
Bah, en tout cas, il y a une vision comme ça du démiurge qui conçoit et qui est une forme de toute puissance qui est questionnante aussi, parce que c'est aussi une domination, c'est aussi le fait d'imposer sa vision aux autres, etc. Et donc, c'est vrai que quand on parlera certainement de Patrick Bouchain, qui a été un architecte très important aussi dans notre parcours et qui a travaillé sur des réhabilitations de friches industrielles pour des artistes avec très peu de moyens. Donc souvent, c'est aussi intéressant d'analyser que c'est des processus aussi d'économie de moyens qui forcent à penser plus. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé de penser parce que vous n'avez pas d'argent de toute façon. Alors que quand vous avez on voit les villes nouvelles dans les pays du Golfe ou ailleurs, voilà, il y a des budgets titanesques et du coup, ça devient tout et n'importe quoi. Et donc, ce passage de l'intention à l'attention, ce mot de l'attention, il est très fort, parce qu'on peut citer Baptiste Morisot, le philosophe notamment du vivant, qui dit que dans attention, il y a deux idées, il y a attentif et attentionné. Et ces deux idées sont très complémentaires, c'est assez beau de voir ces deux mots-là dans ce mot de l'attention. Attentif, donc c'est une capacité d'observation, de précision, d'aiguiser son regard. de regarder une disposition, un bâtiment, d'envisager des choses que peut-être la personne qui vous le demande n'a pas vu. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme la musique, c'est aiguiser le regard, ou c'est comme la peinture, c'est plus vous allez regarder, plus vous allez être aiguisé à voir derrière, à voir dessous, à voir l'invisible. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'invisible de manière agnostique, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est l'invisible des lieux. Donc ça, c'est une première notion. Et l'autre notion, c'est être attentionné. Et donc là, c'est plutôt la question du soin. C'est plutôt comment on va considérer que ce qui est déjà là a une valeur et comment on va accompagner sa transformation, révéler une valeur cachée. Et ce soin, il va être porté au lieu, il va être porté aux matériaux, il va être porté aux parties prenantes, donc au savoir-faire de l'endroit où on intervient, aux acteurs du quartier sur un bâtiment en particulier. Ce soin, en fait, il est global. Il n'est pas que uniquement sur une question technique de dire, ben voilà, il y a une poutre en bois, je vais la garder, je vais en faire autre chose. C'est vraiment une attention un peu globale, un peu dans le sens aussi des trois écologies de Félix Guattari, qui était le compagnon de Gilles Deleuze, sur ce petit livre qui pour nous a été un livre assez fort. Et donc, il parle des trois niveaux de l'écologie politique, en considérant qu'il y a d'abord l'écologie mentale, c'est comment soit on affronte la complexité du monde, le trouble qui nous fait poser beaucoup de questions, et aujourd'hui
particulièrement en ce moment, voilà, on est servi.
Je pense qu'on est servi, absolument. Donc ça, c'est le premier niveau de l'écologie. Le deuxième niveau, c'est moi, dans moi et les autres. Donc c'est la question du lien qu'on peut avoir, des confiances, des solidarités, des alliances qu'on va développer. Et le troisième niveau de l'écologie, c'est l'écologie environnementale, c'est les humains, les non-humains, le vivant dans leur ensemble. Et en fait, il montre que c'est impossible de dissocier les trois. Et ça, c'est très important, parce que on voit que l'écologie qui serait que environnementale, en disant il faut pas couper un arbre, etc. On voit bien que c'est une partie du problème. C'est vraiment un spectre trop resserré. Évidemment qu'il faut éviter de couper des arbres, notamment en ville, parce qu'il n'y en a pas assez, qu'il faudrait en planter des millions. Mais on voit bien que le sujet peut pas se limiter à ce spectre-là. C'est vraiment ces trois strates qui sont très importantes à relier entre elles.
Ça rejoint un peu la notion de l'alignement, en tout cas cette quête du podcast Insensé, qui est, enfin, quand ça résonne à plein de niveaux différents, à plein de strates différents, on s'y retrouve. Un peu sans transition, même s'il y a un lien avec tout ça, j'aimerais parler de ce gros mot, cette habitabilité du monde, qu'on avait déjà abordé avec un sociologue qui s'appelle Michaël Dandrieux. Donc le principe est simple, créer un endroit où on peut continuer à habiter, nous les humains, où on peut survivre, et ça pose la question de ce qu'on fait aujourd'hui pour demain, pour que ce monde reste habitable. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une grosse partie des déchets qui viennent du bâti. Comment est-ce que, à travers les efforts du collectif, vous arrivez à transformer ça? Est-ce que vous arrivez à quantifier l'impact environnemental qu'il y a sur la réutilisation, la réhabilitation des différentes matières?
Le réemploi des matériaux ça poursuit cette idée qu'on doit consommer moins de matière, on doit moins extraire. Il faut se rendre compte que les sociétés contemporaines et dans lesquelles on a grandi et qui sont encore à l'œuvre sont des sociétés extractivistes. C'est-à-dire qu'on est dépendant constamment du fait d'aller puiser dans la nature ou que ce soit les matériaux qui ensuite sont transformés pour construire ce qui est autour de nous, que ce soit nos smartphones, la table qui est là, le mobilier, peu importe. Donc ça, il faut avoir cette conscience-là qu'il n'y a pas de création de matière comme ça de nulle part. Tout vient de quelque part. Donc ça, c'est une première entrée de la conscience. Moi, je pense que l'effort là, qu'on mène dans les expositions ou les recherches qu'on peut mener, c'est vraiment un effort de conscience. C'est de dire on n'a pas vocation à apporter des réponses. Par contre, on a vocation à partager nos questionnements, et on se rend compte que les partager de manière large et collective nous renforcent collectivement. Donc voilà, donc il y a une conscience du fait que tous les matériaux viennent de quelque part. Et la deuxième conscience, c'est la quantité gigantesque de matière et de matériaux et de nourriture qui est jetée tous les jours. Sur la nourriture, par exemple, c'est intéressant de faire des parallèles, c'est 30% de tout ce qui est cultivé part à la benne ou à la poubelle. 30%. Donc on a mis en place des systèmes de production délirant, avec tous les effets que l'on connaît, que l'on commence à voir sur l'appauvrissement des sols, etc., pour produire plus, en sachant que ce plus, il y en a un tiers qui ne sera jamais consommé et qui va partir à la poubelle. Et dans les bâtiments, c'est un peu la même chose. Quand vous faites, par exemple, un bâtiment de bureau, en Île-de-France, encore une fois, le renouvellement des aménagements intérieurs d'un immeuble de bureau, la moyenne, c'est autour de 6 ans. C'est-à-dire que tous les 6 ans, le nouveau locataire ou nouveau propriétaire va tout virer, tout curer, tout jeter, parce que les modes ont changé, la couleur a changé, etc. Et donc, 6 ans, c'est dérisoire. Et cette matière-là, elle va venir remplir des décharges qui sont sur des terres agricoles, elle va venir dans des incinérateurs qui vont brûler des matériaux qu'ensuite on va respirer parce que rien ne disparaît. Et c'est ce qu'on appelle l'entropie de la matière. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ça peut être un peu technique, mais c'est intéressant, par exemple, beaucoup de gens parlent du recyclage comme étant cette économie circulaire. En fait, elle ne sera jamais circulaire, parce qu'à chaque étape, il y a une perte de matière, il y a une perte de capacité. Si vous prenez du bois massif et que vous dites, je vais le recycler, je vais en faire du panneau de particules. Donc pour faire du panneau de particules, il faut ajouter de la colle. Et une fois que vous avez le panneau de particules, vous n'allez plus pouvoir en faire grand-chose parce que vous ne pourrez pas le retraiter indéfiniment. Donc c'est très important. Évidemment qu'il faut recycler le plus possible des matériaux comme les métaux, notamment, qui se recyclent assez bien. Mais il faut surtout déconstruire l'idée qu'on trouverait une économie vertueuse et une économie circulaire qui n'aurait de circulaire complète que le nom. Voilà. Donc c'est peut-être passer du linéaire à une économie ovale ou de spirale. Mais c'est important aussi de faire attention que nos prises de conscience considèrent qu'il y a une complexité physique. Et c'est là où on s'appuie beaucoup sur les lois de la physique. En fait, c'est très simple. Il y a des matériaux qui rentrent et il y a des matériaux qui sortent. Nous, on est entre les deux. Et comment on fait pour en prélever le moins possible et en jeter le moins possible? C'est ça qui est passionnant.
Et y a trois termes, ou en tout cas trois. Tu parlais de l'économie circulaire, la réutilisation, du recyclage ou du réemploi. Oui. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces trois termes, sachant qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ça. Nous, on a plus l'habitude, comme tu disais tout à l'heure, d'enfouir ou d'incinérer les matières.
Tout à fait. Alors, la réutilisation, ça va être le fait que vous allez pouvoir prendre un élément constitué de l'architecture et vous allez vous en servir pour faire la même chose. Par exemple, vous démontez une porte et puis vous trouvez un autre bâtiment dans lequel il y a la même dimension de porte et vous le réutilisez. Et ce qui est assez rare, parce qu'il faut qu'il y ait la même fonction, les mêmes dimensions, le même usage, etc. Ça, c'est la réutilisation. Le recyclage, on en a parlé, c'est l'idée de transformer la matière. Donc, vous prenez la porte, vous la broyez et puis avec ces copeaux, vous faites soit de l'énergie, soit du panneau de particules, soit tout un tas de déclinaisons qui peuvent avoir à partir de cette matière qui a été broyée, donc la porte a disparu. Et le réemploi des matériaux, c'est ce qu'on a par exemple ici dans cette salle où nous parlons, c'est que nous avons des portes qui étaient des portes d'entrée d'appartements dans un immeuble de logements sociaux dans le 19e arrondissement de Paris, qui ont dû être changées parce qu'elles étaient plus conformes, plus aux normes, et en tout cas elles avaient besoin d'être changées. Et donc là, on s'en est servi pour faire les cloisons d'une salle. Donc on a changer la fonction, c'est-à-dire que c'est devenu une cloison alors qu'avant c'était une porte. Et là, c'est ce qu'on appelle le réemploi des matériaux, où on utilise la matière en lui trouvant une nouvelle affectation ou une nouvelle utilisation.
D'accord. Et pour creuser un petit peu le truc, on va essayer de dézoomer avec cette notion de réversibilité et démontabilité des bâtiments. Donc là, on n'est plus sur la matière en elle-même, on est sur un lieu.
Absolument.
Comment est-ce qu'on peut concevoir des bâtiments qui vont pouvoir changer d'usage avec le temps et passer par exemple d'une destination de bureau à du logement et inversement, ou peut-être d'autres usages.
Ça, c'est intéressant, et pour ça on peut regarder la production, l'architecture du siècle dernier et de tout ce qu'on a appelé l'architecture industrielle. Et là on est aujourd'hui dans un lieu qui était les anciennes pompes funèbres de la ville de Paris, donc qui aujourd'hui est le 104, dans le 19e arrondissement de Paris.
Je ne savais pas que c'était les pompes funèbres.
Et donc c'était les pompes funèbres où étaient fabriqués les cercueils et tous les objets des rites funéraires, et aussi où étaient présents 300 chevaux qui partaient avec les corbillards. Donc il n'y avait pas de morts qui étaient présents dans ce bâtiment. C'était vraiment le lieu de gestion où les corbillards partaient, allaient chercher les gens qui souvent mouraient chez eux et les amenaient au cimetière. Et donc c'était comme ça un bâtiment que certains appelaient une usine à deuil, parce que les gens venaient ici choisir le cercueil, les décorations, etc. Il y avait tout un accompagnement, il y avait des métiers d'art incroyables pour fabriquer tous ces objets-là. Il y avait bien sûr des menuisiers, des fleuristes, voilà. Et ce bâtiment, quand il a été abandonné, il est resté vide une dizaine d'années. Il a failli être démoli, parce que tout d'un coup, pour développer le fameux développement urbain, il faut démolir et construire plus haut, plus fort, etc. Et donc, il a été classé au patrimoine de manière in extremis pour éviter sa démolition. Et ensuite, c'est Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, qui a décidé d'en faire un projet culturel. Et donc, le lieu a été transformé. Mais il a été transformé grâce notamment à ses qualités spatiales. C'est-à-dire que les grandes nefs qui sont présentes et qui s'enchaînent avec ces grandes cours ont été conçues pour des usages qui étaient de la mise à l'abri de toutes les fonctions dont on a parlé précédemment. Et cette générosité spatiale a permis ensuite d'en faire autre chose. Et donc c'est important parce qu'aujourd'hui, l'architecture qu'on produit, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose d'autre. Parce qu'on est tellement sur une réduction des hauteurs sous plafond, parce que ça coûte plus cher, de la qualité des matériaux, des modes constructifs, où on va chercher tout le temps l'optimisation économique. Et en fait, on se retrouve à faire des bâtiments qui sont soit du bureau, soit du logement, mais entre les deux, on n'a pas la même hauteur d'étage. Le logement va être plus bas que le bureau pour tout un tas de raisons techniques. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que l'architecture qu'on est en train de produire va être assez peu réversible. Donc ça doit nous interroger sur nos façons d'envisager les projets, sur nos façons de peut-être concentrer des espaces appropriables. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les projets ici avec l'équipe, c'est de dessiner des espaces non affectés, c'est-à-dire de dessiner du vide. Mais ce qui est souvent très contradictoire, parce que les gens viennent nous chercher pour dessiner du plein, pour remplir. Mmh. Parce qu'il y a des cahiers des charges, il y a des modèles de rentabilité, il y a des enjeux. Et on a fait plusieurs projets en disant, notamment sur des lieux d'innovation, qui veulent être des lieux prospectifs, en disant, mais si en fait, dans 2-3 ans, vous voulez être encore un lieu innovant, ou dans 5 ans, il faut que vous ayez des espaces vides. Parce que si vous n'avez pas d'espace vide, vous ne pourrez pas accueillir l'innovation dont vous parlez. Et donc ça, c'est important parce qu'on doit souvent se battre un peu pour expliquer cette idée de l'espace vide et de la capacité d'un lieu à se transformer. Mais c'est quelque chose qui est en train peut-être d'être mieux compris, mais qui doit aussi se placer dans un temps long. Et ça, c'est le gros, gros défi de l'architecture et de la ville contemporaine, c'est de considérer que le temps court de la rentabilité purement économique... est une fausse bonne idée à long terme. Mmh. Parce que c'est gagner plus sur le moment, mais c'est perdre tellement plus à long terme, et c'est surtout perdre tellement plus de manière collective et sociale. Mmh.
C'est intéressant ce que tu dis là sur ce dernier point. Je ne sais pas trop comment rebondir. Ce que j'aimerais creuser, c'est comment... Est-ce que vous arrivez à transformer ces projets qui ont un principe de rentabilité ? C'est la réalité économique... Et là, mais vous portez des valeurs fortes et tous ces questionnements, est-ce que vous arrivez à avoir un impact aujourd'hui là-dessus, sur la transformation de la manière dont on pense le bâti, comme les usages, comme la pérennité du bâti, pour qu'un endroit comme le 104 puisse devenir un peu ce lieu de vie pluridisciplinaire comme il est aujourd'hui? Comment est-ce qu'on transforme ça vraiment?
Il y a plusieurs stratégies. Après... Je pense qu'on essaie chaque fois d'aller aussi loin que possible en restant dans une forme de réalité. C'est-à-dire qu'on est une équipe et on a des projets divers et variés, mais qui sont des projets dans le réel. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un bureau de réflexion ou un think tank, parce qu'on pense que le réel, c'est ces allers-retours entre la prospective et le réel qui nous semble être l'échelle indispensable de la transformation. Parce que sinon, vous êtes trop... radical, mais vous êtes déconnecté du réel, ou alors vous êtes que dans le réel et vous faites ensevelir dans le réel. Donc nous, on a toujours depuis le début assumé aussi cette approche d'architecte généraliste qui cherche à ne pas se spécialiser, à ne pas faire que des écoles parce que votre premier concours a été une école, ou à faire que des musées, ou à faire que du logement. Donc on a une volonté d'être vraiment sur beaucoup de sujets variés, chaque fois se relever les manches et découvrir un nouveau milieu, un nouveau sujet, un nouveau domaine, avec à la fois beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'engagement. C'est-à-dire que accepter qu'on ne connaît pas tout, mais que par contre, il n'y a pas de raison qu'on fasse moins bien que ceux qui font ça depuis 20 ans et qui ont peut-être oublié qu'on pouvait faire différemment. Mmh. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Et ensuite, essayer aussi de trouver le bon curseur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que dans chaque projet, on ait un endroit où on ait pu faire un pas...
planter la graine.
Exactement. Un pas de côté, où là, on est en train de construire un cinéma à côté de Toulouse, dans une ville qui s'appelle Colomiers. Et on a réussi à ce que la partie d'entrée et toute une partie de la façade soit construite en terre crue, qui est un matériau qui a des milliers d'années, mais qu'on a totalement oublié. Et on a considéré que c'était un matériau pauvre, qui n'avait pas de valeur, alors qu'en fait, c'est un matériau local, présent, magnifique en plus. Et donc là, on a réussi à convaincre notre commanditaire, la ville, etc., pour avoir une partie. Alors, par rapport au béton et au bois qui sont à côté, c'est encore pas suffisant, parce qu'on est autour de 10% du volume qui est en terre crue, 20% du volume qui est en bois, et le 70% restant qui est en béton. Donc l'écart est encore gigantesque, mais on se dit que c'est parce qu'on a fait ce 10%-là que le prochain projet, on pourra peut-être être à 20, 30 ou 50%. Et donc, c'est un peu cette volonté d'essayer de cranter, comme dirait Nicolas Détry, que tu as reçu, de cranter comme ça les étapes de cette transformation. Parce qu'on en a besoin collectivement pour nous, pour d'autres aussi. Parce qu'on voit que des projets qu'on a pu faire, d'autres s'en servent en disant bah, regardez, ils ont réussi à faire ça.
Ça existe.
Voilà, ça existe. Mmh. Et je pense que ça, c'est très important aussi de s'inscrire dans cette vision-là.
Et j'imagine que vos clients, les personnes avec qui vous bossez, viennent vous chercher aussi pour ça ?
Oui.
Petit à petit ?
Petit à petit. Ça aussi, c'est le temps long, le temps long des parcours professionnels. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à trouver des alignements assez forts entre ceux auxquels on croit, ce pourquoi les gens viennent nous chercher. Et c'est ce courage-là. Et c'est aussi des histoires de rencontres et de confiance. Je pense que ce qu'on a beaucoup appris aussi de Patrick Bouchain, l'architecte qui nous a beaucoup inspiré, c'est ce rapport de confiance entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre, entre une vision commune, mais des chemins détournés d'y arriver. Et ça rejoint un peu la discussion tout à l'heure sur l'intention et l'attention. C'est aussi considérer que ce qui va compter dans un projet, c'est le processus du projet. C'est à la fois se faire confiance sur le fait que le processus va certainement nous dépasser, mais qu'en tout cas, ce processus est le seul garant d'une complexité et d'une finesse de la réponse posée. Et ça revient aussi, si on fait le parallèle avec une recette de cuisine, c'est se dire, voilà, on a les ingrédients, on a globalement ce vers quoi on veut aller, mais on n'a pas forcément le goût final, on n'a pas forcément la recette qu'il faut respecter telle qu'elle est écrite dans le livre, parce qu'en fait, si c'est juste la faire comme dans le livre, n'importe qui pourrait la faire. S'il faut doser au gramme près tous les ingrédients, bah en fait, puis après il y a le Magic Mix qui arrive et puis c'est terminé. Donc là, en fait, nous on considère que l'architecture, voilà, il y a des ingrédients de départ, il y a des fois des surprises. On a fait des projets, et on est en train d'ailleurs de faire un projet de transformation d'un garage automobile en logement. Okay. Donc là, on est dans le 19e arrondissement de Paris et le cahier des charges était de démolir le garage existant pour faire 150 logements, donc pour faire quand même un projet assez important. Et nous, on a décidé de conserver la moitié du garage pour transformer le garage en logement. Toujours pareil, en disant qu'on allait éviter de démolir, d'extraire du béton pour en remettre, etc. Et donc là, on a réussi à faire la démonstration. C'est un chantier qui est en cours, que l'on pouvait transformer un garage pour en faire des logements qui ont tous des terrasses, qui ont des espaces plus importants parce que le bâtiment était déjà là et que l'économie globale le permet. Parce que là, on est vraiment dans le réel.
Et là, justement, sur un principe de rentabilité, on est dans les clous de garder la structure de l'existant.
On l'est parce que sinon, le maître d'ouvrage ne ferait pas le projet. Donc, c'est-à-dire que nous, on a dû travailler très, très fortement et très finement sur ce bon dosage-là. On l'est aussi pour des règles plus techniques, du fait qu'on peut, quand un bâtiment est existant, on peut profiter de sa dimension, alors que si on le démolit, on a d'autres règles qui vont s'imposer, qui feront qu'on aura peut-être moins de mètres carrés ou autre. Donc, c'est intéressant de montrer que c'est une vision un peu globale, mais là, dont on est en train de faire la démonstration, dans une ville comme Paris, qui est déjà très dense, et qui, plutôt que de continuer à construire des bâtiments, doit d'abord peut-être transformer ceux qui sont là.
Ça me fait une très belle transition à transformer l'existant, transformer des lieux. Je porte un projet de tiers-lieu à Marseille qui a lieu dans une ancienne ferronnerie.
D'accord.
Qui a des volumes absolument incroyables. qui a été abandonnée depuis 30 ans maintenant, dont la structure paraît saine. Et le prochain point que je voudrais aborder, qui est aussi en lien avec ces lieux infinis, enfin, que tu as creusé main dans la main avec Nicolas Détry, comment est-ce que l'espace permet aux différents usagers, aux différentes populations de se rencontrer?
Ça rejoint notre échange sur l'invisible et sur les qualités spatiales ou tout ce qui fait que les dispositions spatiales, et ça aussi ça a été très fort sur le fait qu'on a commencé d'abord en faisant des scénographies d'exposition, et quand vous faites une scénographie d'exposition ou une installation artistique, la seule question qui vous obsède, c'est le parcours. Comment la personne va se déplacer.
Ah oui, donc tu as commencé par ça. Voilà. Okay.
Et je pense que ça reste aussi un axe fort de notre façon de travailler. C'est de toujours s'imaginer étant l'enfant de 10 ans qui arrive dans le lieu, qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce qu'il va comprendre, la personne de 70 ans qui a besoin de s'asseoir pour prendre sa respiration, est-ce qu'elle va trouver un espace ou pas. Le niveau aussi de lecture, de considérer qu'un espace peut être vu de manière différente. Et ça, c'est aussi un engagement contre la séparation des fonctions de cette ville industrielle et globalisée où on a voulu, soit on est dans un centre commercial, soit on est dans un lieu culturel, soit on est... Il fallait vraiment marquer dessus, en gros, ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Et ce qui nous intéresse dans les lieux infinis, que certains appellent les tiers-lieux, les lieux hybrides, ou peu importe comment on les appelle, c'est vraiment ce rapport entre le floutage des limites, le fait de venir pour quelque chose et de peut-être repartir avec autre chose, le fait de considérer qu'on a séparé les fonctions, on a séparé aussi les populations, on a tout séparé, et qu'en fait, on est en train de crever de cet éloignement, parce que quand on ne connaît pas l'autre, c'est le meilleur moyen d'en avoir peur ou d'en avoir des préjugés. Et l'expérience, par exemple, des grands voisins qui a eu lieu dans le 14e arrondissement est un exemple mais incroyable, gigantesque, magnifique d'imaginer qu'on pouvait héberger 300... personnes en grande précarité, en plein 14e arrondissement, avec des artisans, des artistes et des gens venant là peut-être pour découvrir quelque chose auquel ils n'auraient jamais pensé. Et donc ça, c'est cette notion-là d'infini nous intéressait, de se dire que c'est presque de la mathématique, en fait, la notion d'infini, mais se dire quand vous mettez dans un lieu des fonctions différentes et que des gens différents vont venir, c'est impossible de prévoir ce qui peut se passer. Et donc ça a aussi le lien avec le lâcher prise, avec le fait de ne pas programmer, de se laisser soi-même surprendre par des usages, d'imaginer aussi que les lieux et l'architecture que l'on conçoit doivent avoir une capacité à se transformer beaucoup plus rapidement. Donc c'est là aussi où on est à l'inverse d'architectes qui voudraient avoir dessiné une bonne fois pour toutes, parce qu'eux seuls ont la vision du beau, du grand, du bien, et que du coup, voilà, ils vont dessiner, on ne touchera à rien à l'œuvre. Cette notion d'œuvre architecturale, pour nous, elle est contraire à une plasticité des espaces, en lien avec une plasticité de nos vies, de nos sociétés. Et on voit cette déconnexion et ce décalage dont souffre la société, mais dont souffre aussi l'architecture et dont souffrent les architectes. C'est ce temps trop long de l'architecture et de la ville, parce que faire un grand projet urbain ou autre, c'est 10, 15 ans, 20 ans. C'est gigantesque, c'est une génération, en fait. Et une société qui s'accélère, où on voit, et l'année 2020 en est un exemple, que tout d'un coup, on voulait que tout le monde soit au même endroit, et puis en fait, en deux jours, il faut que tout le monde soit à des endroits différents. Donc, c'est intéressant de voir, on parlait de l'open space et du flex office comme étant l'avenir du bureau, et puis en fait, aujourd'hui, il faudrait que chacun soit dans son petit bureau.
Surtout pas.
Donc là, il y a une espèce de... Ce décalage-là, il est très intéressant, parce que il faut qu'on en ait conscience, encore une fois.
Et ça me fait rebondir sur ces 10-15 ans pour fabriquer la ville, que je relie avec ton point de l'espace que tu mentionnais tout à l'heure, pour laisser place à l'innovation, pour laisser place à
l'inattendu,
à ce que quelque chose se passe. C'est comme ça qu'on peut imaginer la suite, c'est comme ça qu'on peut fabriquer la ville, en laissant des espaces.
Absolument, c'est les espaces autorisants dont parle Nicolas. Et c'est important là aussi de considérer que c'est pas tout ou rien. C'est très important, parce que il y a eu des mouvements en architecture, comme des styles dans la peinture, dans la musique, etc. Et tout d'un coup, soit on fait du classique, soit on fait du punk, soit on fait du rock, soit on fait du jazz. Et c'est très bien. Mais par exemple, nous, on a le sentiment qu'en architecture, encore une fois, on va être dans le mélange, dans l'hybridation, dans le dosage. et que peut-être qu'on peut aller chercher dans chacun des intérêts, des différentes approches, l'idée que le bâtiment, dans son ensemble, doit être peut-être très efficace, très technique, très simple, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir le réparer, le transformer. Qu'ensuite, on va avoir des niveaux intermédiaires d'aménagement intérieur qui, eux, devront être beaucoup plus réversibles, parce qu'on aurait comme ça un grand parapluie qui protège des intempéries, et puis dessous, on pourrait modifier des choses. Et qu'ensuite, on aurait une autre échelle qui serait celle du mobilier ou de la signalétique ou des choses beaucoup plus légères, mais qui, des fois, vont avoir un impact gigantesque sur la façon dont les gens vont habiter le lieu. Et en fait, c'est cette conscience de ces niveaux-là, de ces complémentarités entre ces échelles et de ces rapports au temps. Je pense que l'erreur, peut-être, de l'architecture moderne et contemporaine des 50 dernières années, c'est cet oubli du temps. Ou c'est se dire, le seul temps qui compte, c'est le temps long, et donc on va faire comme ça des œuvres qui vont marquer l'histoire de l'architecture. Et en fait, ça, pour moi, c'est pas respectueux du temps. C'est pas respectueux des chronotopies, comme on dit, c'est-à-dire cet usage d'hiver entre au printemps ou en hiver ou en été, vous n'allez pas utiliser du tout un lieu de la même façon, que ce soit le jour, la nuit, pas de la même façon, le week-end ou la semaine, etc. Et l'architecte, et derrière l'architecte, il faut toujours se dire qu'il y a des commanditaires. Hein. Donc quand on dit l'architecte a fait n'importe quoi, c'est souvent la personne qui a demandé à l'architecte de faire n'importe quoi. Ça, c'est très important parce que voilà, y a des grands préjugés comme ça sur les architectes qui seraient déconnectés, hors sol, mais il faut se dire qu'on est un métier de commande. C'est-à-dire que c'est très rare que l'architecte fasse un projet pour lui-même. C'est toujours quelqu'un qui lui commande. Donc il faut d'abord se demander si la question qui avait été posée était la bonne. Voilà. Ça, c'est un petit aparté, mais important. Et voilà, cette remise en cause de cette vision qui serait la seule vision valable du temps long et de vouloir marquer sa pierre par un objet architectural. Donc, disant ça, je veux bien le préciser, ça ne veut absolument pas dire que la question esthétique, la question des proportions, etc., disparaît. Parce que souvent, on oppose en disant qu'il y aurait une architecture savante de la beauté, et puis il y aurait à côté le bricolage désorganisé. Mais par exemple, on peut prendre l'exemple de l'architecture vernaculaire, donc l'architecture faite sans architecte, des territoires ruraux, ou d'espaces que je connais très bien. Et l'architecture, par exemple, paysanne, on ne peut pas dire qu'elle soit inesthétique, ou qu'il n'y ait pas de beauté dans ses cohérences, de proportions, de savoir-faire, de mise en œuvre. Alors que souvent, elle a été faite sans architecte. Qu'est-ce que je veux dire ? Et souvent, elle a été bricolée, et elle a été transformée. Et en même temps, on peut être époustouflé voilà, par ces architectures-là, ou les architectures industrielles, qui souvent ont été pensées de manière purement opérationnelle, technique, à moindre coût, qui ont elles aussi été transformées. On le voit, par exemple, si on regarde les photographies des photographes des Becher, le couple de photographes allemands, qui pour nous sont une source d'inspiration gigantesque, parce qu'ils ont passé leur vie à photographier les bâtiments industriels. Et on voit ces bâtiments, ces hauts fourneaux, ces hangars, etc., qui ont été transformés et qui ont une sorte de organicité, beauté de l'usage et de l'ajout petit à petit en fonction des évolutions techniques. Et donc ça, pour nous, c'est une référence incroyable. Donc faisons très attention à ne pas opposer d'un côté une architecture qui serait celle du beau et de l'autre côté le non défini. Qui serait moins beau, parce que voilà, c'est la question du beau, elle est aussi centrale, et ça donnera lieu à une exposition bientôt au Palais d'Arsenal sur l'esthétique de la ville, comment partager des esthétiques, qu'est-ce qu'on entend par la question du beau, et nous venant aussi de, et notamment Julien Chopin, qui veut mon associé, avec qui on a fondé Encore Heureux, qui lui venait beaucoup du monde artistique, où la question vraiment du beau, de la réception était centrale. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup occupé en parallèle de toutes les autres consciences que nous pouvions avoir.
Et est-ce que c'est le beau qui rend désirable un lieu pour les populations qui verraient de la lumière ou qui auraient envie de venir découvrir ?
Je pense que c'est cette question du désir, elle est aussi multifactorielle, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le fond et la forme. Donc la forme, ça pourrait être le beau, et le fond, c'est qu'est-ce qu'on va y trouver. Et souvent, en fait, c'est le lien qu'on va faire entre les deux. Et c'est pareil, vous pouvez avoir un plat, une assiette devant vous magnifique, et en fait, il n'y a pas de goût. Et donc, le désir, il ne vient pas que du visuel, il va venir aussi du goût ou des odeurs, etc. Donc il y a vraiment ce côté multisensoriel de l'architecture qui doit être mis au centre. Et du coup, ça veut dire que quand on considère que seule l'image de l'architecture lui donne sa valeur, donc ce qu'on appelle le fait de montrer j'aime pas, je vous montre une image en 3D et puis est-ce que c'est beau ou pas beau, il y a eu ces outils là qui ont permis d'aller très très loin dans la façon de présenter l'architecture. Et puis on a oublié qu'en fait une image c'était uniquement une façade, qu'en fait il y avait tout un tas d'autres échelles derrière qui allaient faire cette désirabilité indispensable à la vie, parce que à la vie du bâtiment, j'entends, parce que un bâtiment générant du désir est un bâtiment dont on prendra soin et qui a toutes les chances d'avoir un parcours de vie beaucoup plus long qu'un bâtiment mal aimé ou un bâtiment dégradé. Et c'est vraiment des cercles vertueux ou des cercles vicieux, c'est-à-dire que un endroit, un espace où on se sent pas bien, où l'acoustique n'est pas bonne, etc., on va pas envie de l'entretenir, on va pas, et petit à petit en fait il va se dégrader très très petit à petit, mais des fois très rapidement. Et ça on le voit dans des lieux de travail, on le voit aussi dans des lieux nous on a fait beaucoup de il se trouve que quand j'étais au lycée je faisais partie d'un groupe de musique et on jouait dans les fêtes de village et dans les salles des fêtes, et on passait notre temps dans des espaces inconfortable, avec du carrelage blanc, avec une mauvaise acoustique, etc. Alors que le lieu de la fête, c'est quand même le lieu magnifique de la société. C'est le lieu où on va se marier, où on va faire un anniversaire, où on va... et on a considéré que voilà, on faisait des hangars et puis on marquait salle des fêtes dessus et ça suffisait. Mmh. Et donc là, quand on s'est, nous, retrouvés à devoir concevoir et construire une salle des fêtes pour la ville d'Albi il y a quelques années, ben vraiment, on a été très très attentifs à ces différentes séquences, à considérer que beaucoup de choses se jouent dans le hall avant de rentrer dans la salle, parce que c'est là où vous allez croiser les gens, c'est là peut-être en repartant que vous allez avoir un regard avec une personne, etc. Donc on a mis en scène cet espace-là. Ensuite, le bâtiment a été conçu pour pouvoir s'adapter à des publics très variés, que ce soit le club de tarot du troisième âge ou un concert de hip-hop avec les associations locales. Et donc, c'est cette capacité d'accueillir, en fait, qui doit être au cœur de notre métier. Et ça se joue à des petits détails. C'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est très difficile aussi. Il faut toujours rappeler la complexité de l'acte de construire et du fait aussi que l'architecte n'est absolument pas seul. L'architecte, il intervient avec un ensemble de partenaires techniques à tout niveau et notamment des partenaires qui vont construire, parce qu'on ne construit pas de nos mains, on confie à d'autres le soin de construire ce que d'autres nous ont demandé de dessiner. Donc ce passage, ce rôle traducteur. De passeur, traducteur-passeur, exactement. Ouais.
Et vous faites un gros boulot en amont pour comprendre justement ce club de bridge ou de tarot, je ne sais plus ce que tu m'as dit, versus le groupe de hip-hop qui va venir dans cette salle des fêtes. Il y a une grosse étude sur une grosse récupération des données pour comprendre en amont l'usage qu'il pourrait y avoir dans ce lieu. Comment ça fonctionne ?
Ça fonctionne en mettant au centre de nos préoccupations l'attention dont on parlait et le fait d'être et c'est ça peut-être le plus dur, c'est d'arriver toujours à rentrer très finement dans les détails qui nous permettent de faire le projet et de dézoomer à tout moment, de se dire mais là en fait, est-ce que je suis pas en train de me faire absorber par la complexité qui m'empêche de penser à telle personne, à telle personne, à telle personne, surtout qu'en plus souvent c'est des processus assez longs, c'est plusieurs années d'études, du bâtiment, j'entends, hein, et plusieurs années de chantier. Donc au bout d'un moment, des fois, on peut avoir oublié. Et donc le travail qu'on mène avec toute l'équipe ici, c'est toujours d'avoir ce pas de côté, cette respiration, le fait d'être plusieurs aussi architectes. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine d'architectes, d'avoir aussi des regards très précis et d'autres regards plus lointains. C'est aussi tout cet échange-là. C'est très attentif aussi à ces souvenirs de situations qu'on a pu vivre personnellement. Donc ça c'est très personnel, mais c'est partager aussi ses souvenirs et quand on est dans une équipe élargie, on a tous des souvenirs de ces moments-là. C'est suivre aussi des intuitions qui ont besoin d'un temps de maturation. Je veux dire, voilà, j'essaie de partager une intuition et je vais la mettre face au réel et puis je vais voir jusqu'où elle tient, où est-ce qu'elle est bonne ou pas. Et c'est aussi souvent on a beaucoup travaillé sur ce couple-là, intuition référence. Donc intuition c'est très personnel. C'est, voilà, on vous pose une question et tout d'un coup, c'est vers quoi vous tendez, sans forcément chercher à l'expliquer. Ça peut être là où vous avez grandi, ça peut être un rapport visuel, etc. Et les références, c'est votre connaissance de situations similaires, ou ce que vous avez vu, ou ce que vous avez lu, ou ce que vous avez pu, ce qui peut vous nourrir. Et quelle que soit la référence, ça peut être une référence dans le champ de l'architecture, mais ça peut être dans le champ de la sociologie, ou dans le champ du cinéma, ou dans le champ de... Voilà, et c'est ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que en fait, on est tellement, on a tellement une capacité, une nécessité d'être constamment nourri par cette complexité. Et du coup, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait assez peu de métiers de la complexité, parce qu'on a séparé les fonctions, mais on a séparé aussi les métiers. C'est-à-dire que on a fait en sorte que vous soyez soit directeur du marketing, soit à la créa, soit chargé de la recherche. Et c'est des métiers qui n'ont rien à voir, qui sont des formations différentes. Et on a fait ça un peu dans tous les domaines où on a voulu comme ça...
Le fameux silo, quoi.
Exactement, les silos dont tout le monde parle, comme quoi il faudrait les dépasser. Mais en fait, le système de production et notamment l'enseignement continue de faire ces silos-là. Et nous, ça revient à la toute première question de dire pourquoi j'avais choisi l'architecture. C'est parce que justement, je voulais conserver cette complexité, pressentant peut-être que le monde dans lequel on allait grandir serait complexe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est à la fois une question de santé, évidemment, mais c'est une question économique, c'est une question mentale, c'est une question urbaine. Et donc là, on a besoin d'intégrer cette complexité et de l'embrasser, j'ai envie de dire, plutôt que de la refuser en disant « c'est trop compliqué ». Moi, je déteste quand une personne me dit « non, là, c'est trop compliqué ». Parce que c'est un refus aussi de...
De dégrossir, de découper, de prendre
Exactement.
Le temps, de regarder. Avant de passer à la question insensée qui va nous mener aux questions plus personnelles te concernant, j'aimerais aborder un dernier point qui est le côté végétal, la végétalisation de nos villes. On parlait de respiration tout à l'heure, mais c'est une autre définition de la respiration. J'ai trouvé que, qu'est-ce qu'on avait ? L'OMS recommande 10 mètres carrés par habitant d'espace vert. Moi, j'en voudrais 20. Comment on fait pour ajouter du vert dans la ville, où il y a beaucoup de béton, là, dont on a pas mal parlé aujourd'hui, pour ajouter du vert, est-ce qu'on la rajoute sur les toits? Est-ce qu'on la rajoute en intérieur? Est-ce que ça fonctionne quand même? Quelles sont les alternatives?
C'est une bonne question, et j'ai envie de dire que ce rapport au végétal ou au vivant, on pourrait dire, parce que c'est pas que le végétal, c'est aussi tout ce qui est vivant mais non humain, comme dirait Bruno Latour. J'ai envie de partager la critique qu'on pourrait avoir de cette idée de verdir la ville. Parce que nous, on pense que c'est trop facile et c'est comme si on prenait un pinceau et que en mettant des plantes aux fenêtres et en imaginant que parce qu'on allait planter sur les toitures, on voit déjà que techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que la ville est une machine qui fonctionne et qu'il y a des règles physique et technique. Voilà, quand vous avez un métro qui passe sous la route, ben vous n'allez pas pouvoir planter des arbres parce qu'il n'y a pas de terre en fait. Donc vous pouvez vous dire que ça serait bien d'avoir un arbre là, mais ça ne peut pas marcher techniquement. Donc ça, c'est toujours important parce que sinon on peut comme ça lancer des idées de verdir la ville et je pense que ce n'est pas l'attente. Moi, je pense qu'il y a plusieurs réflexions à mener. Il y a le rapport sur la taille des villes et on voit qu'une ville comme Paris certainement doit se questionner sur cette hyperdensité qui fait qu'on est à 6 mètres carrés par habitant, alors que à Berlin, par exemple, on va être plutôt à 200 mètres carrés par habitant. Donc, il y a vraiment des échelles totalement hallucinantes. Non, à Rome, pardon. C'est à Rome où on est à 200, et à Berlin, on doit être autour de 100. Parce qu'à Rome, il y a des grands parcs comme ça, urbains, dans la ville, et c'est une ville plus étendue, moins dense, et peut-être plus résiliente.
Et Marseille, tu sais ou pas?
Et Marseille, j'ai pas la donnée, mais on doit pouvoir la trouver. Mais à mon avis, le sud doit pas être bon. Bloqué entre la mer et les montagnes. Mais la question derrière ça, c'est déjà, il faut regarder où sont les espaces naturels ou verts existants. Donc d'abord, il faut prendre soin de ces espaces-là. Avant de dire il faut verdir la ville, on pourrait dire d'abord, il faut prendre soin des périphéries, des forêts qui entourent quasiment toutes les villes, des campagnes. Ça, c'est la première chose. Parce que faire une forêt, ça prend 500 ans. Donc voilà, faire une forêt urbaine, ça peut être une bonne idée, mais on le verra dans 300 ans. Alors qu'il y a des forêts juste à côté, qui sont peut-être dont on pourrait repenser l'usage et l'accès, sur d'autres choses à inventer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc non, c'est la deuxième chose. Première chose, c'est la question de la densité urbaine. C'est-à-dire que si on veut être dans une ville moins, plus végétale, ben, il faut moins densifier. Il faut arrêter de construire des nouveaux bâtiments. Il faut considérer que avant de construire n'importe quel bâtiment, on va d'abord utiliser les bâtiments vides. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très simplement décidé, de dire on ne construit plus un seul mètre carré tant qu'on n'a pas occupé les mètres carrés disponibles. Voilà, ça, je veux dire, ça prend pas 100 000 ans.
Ça paraît tellement logique.
Voilà. Et d'ailleurs, derrière, après, il y a l'artificialisation des sols, il y a l'étalement urbain. Donc, on voit aussi que tout un tas de questions viennent se rajouter. Donc, le deuxième point, c'est de prendre soin des lieux qui sont déjà des lieux ressources et déjà des forêts, etc. Et on voit que ce qui est fait avec le démembrement ou l'affaiblissement de l'Office national des forêts, notamment, où on considère que c'est pas des services d'État vraiment rentables et qu'il faudrait le confier au privé, ben on voit que c'est vraiment l'inverse qu'il faudrait faire. Au contraire, il faudrait renforcer l'Office national des forêts comme étant un organisme public gérant des biens communs qui sont la forêt, etc. Mais là, on voit que les choix politiques sont faits à l'encontre de cette vision-là. Et ensuite, de manière plus anecdotique, peut-être considérer qu'on peut améliorer telle ou telle situation au cas par cas. En plantant un espace vide ou en considérant que si on va veiller à faire des projets qui minimiseraient le fait de couper un arbre. Mais ça, c'est un bon sujet parce que le sujet en soi, c'est pas de couper un arbre ou 10 arbres. Symboliquement, c'est évidemment que personne ne souhaite couper des arbres. Mais il y a des moments où il vaut mieux en couper 10 pour faire un projet d'école ou de logements sociaux parce qu'il y a ce besoin qui est vivant, et puis prendre soin de 1000 arbres ou de 2000 arbres qui sont dans une forêt à côté, qu'on va soit couper parce qu'on va faire un dépôt pour Amazon, soit pour une zone commerciale qui va continuer à s'étendre, alors que tout le monde sait qu'il n'y a aucun avenir à ces périphéries commerciales qui se sont étendues de manière hallucinante. Donc, vous voyez, c'est important, c'est important de toujours essayer de remettre ce sujet dans une question de système global, que c'est le défi du changement climatique. Le changement climatique, c'est une question d'enjeux globaux. C'est une question à la fois à l'échelle d'un pays, comme on en parle là, mais aussi d'un continent et d'une mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les objets qui nous entourent ont fait des milliers de kilomètres. Une bouteille d'eau qui a été fabriquée peut-être à 10 000 kilomètres va venir sur votre table pour vous servir un litre d'eau. Il faut 3 litres d'eau pour fabriquer la bouteille vide d'eau. Donc, donc là aussi, on pourrait dire, ben, on arrête la bouteille d'eau. Okay, c'est bon, on voit bien, on a tous les chiffres. Coca-Cola, c'est 8 milliards de bouteilles d'eau par an, de bouteilles de Coca par an. Donc, c'est 17 fois un aller-retour entre la Terre et la Lune, si on les mettait toutes bout à bout, de production. Donc, les enjeux, quand même, c'est cela. Donc, l'architecture, c'est une part. Évidemment, on sait que c'est un impact. On habite tous, on a besoin d'habiter. C'est aussi important de dire qu'on ne peut pas arrêter d'habiter. On parlait de l'habitabilité. On voit le rapport du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre tous les ans montre que voilà, la situation est catastrophique, qu'on continue d'avoir des gens dehors, d'avoir des bâtiments vides, des gens dehors, des gens dans une grande précarité, des gens dans une grande souffrance physique et psychologique du fait de mal habiter. Donc, il ne faudrait pas dire, ça aussi c'est un discours qu'on peut entendre, sur le fait qu'il ne faut plus construire, il faut tout arrêter, etc. Ça serait oublier les 3 écologies que de dire ça. Mmh. Et voilà, donc là, on voit bien la complexité de ces positionnements. Et ensuite, on voit les responsabilités collectives de ces choix-là, notamment de la puissance publique, mais de chacun des métiers qui composent les sujets. Et donc, moi, je pense que on doit, où qu'on soit dans la société, quel que soit votre tion, vos désirs, vos envies, la question est d'avoir déjà de partager cette conscience-là, et c'est encore Bruno Latour qui en parle très bien en disant qu'on a besoin de partager notre conscience de nos vies et de nos quotidiens pour pouvoir s'engager dans des actions. Si on ne partage pas le constat, jamais on pourra mener les actions, parce que quelqu'un qui fait des déplacements toute la semaine, si vous lui dites qu'il passe de 90 km/h à 80 km/h, ben, il va se rendre compte que voilà, c'est le delta de temps, peut-être ça va il va avoir le sentiment de perdre son temps. Ou qu'on lui pose une limite, voilà, on en parlait tout à l'heure, limite de vitesse. Mais en fait, Il faut se questionner sur l'impact réel écologique de ce 10 km/h de plus, sur au-delà des accidents, mais au-delà aussi de la consommation, sur ce temps qu'il gagne, au service de quoi il est donné. Si c'est pour aller s'abrutir devant Cyril Hanouna, je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir roulé à 90 km/h pour, donc c'est toujours ça, le rapport à la valeur du temps. Bon, là, je le dis un peu cash, mais c'est toujours important de partager cela parce que je trouve qu'on... On est soit bloqué par des certitudes trop faciles, soit désemparé face à la complexité. Et on le perçoit notamment dans les jeunes générations où on voit qu'il y a une compréhension de cette complexité. En même temps, il y a un vertige de savoir si on peut y prendre part. Et il y a un vertige d'identifier les moyens d'action et les leviers. Donc là, il faut aussi être dans une grande confiance, considérer que c'est des petits pas qui permettront certainement les grands. Ou en tout cas, ils sont en des préalables, que les petits pas seuls ne suffiront pas. Ça, c'est très important parce que la métaphore du colibri, voilà, la vraie histoire du colibri, c'est qu'à la fin, le colibri, il brûle aussi dans la forêt. Donc,
je ne savais pas ça.
Ah, si, si, mais on ne le sait pas vraiment.
Mais je croyais qu'il arrivait à convaincre les autres, genre l'éléphant et tout, quand même.
En tout cas,
il y a plusieurs fins.
Il y a plusieurs variantes.
Il y a la fin pessimiste.
Mais il y a une des variantes là, qu'on a explorées parce qu'on prépare une exposition. Au 104 en mai prochain qui s'appelle Énergie Désespoir et qui va du coup essayer de partager les sujets dont on parle là qui sont des sujets de désespoir, le changement climatique, la biodiversité, voilà, donc des grands sujets et qu'on pense important de partager parce qu'on en a une conscience comme ça diffuse et on pourrait dire que oui ces sujets là sont de plus en plus connus, mais en fait on se rend compte que dans le détail ils ne le sont pas tellement. Et en parallèle de ça, on va présenter aussi des énergies qui sont des alternatives, des choses collectives souvent où des citoyens, des citoyennes décident de se remonter les manches et de se lancer dans des aventures incroyables comme par exemple la société coopérative RailCop qui a décidé de relancer des liaisons ferroviaires entre Lyon et Bordeaux, donc sur une transversale que la SNCF a délaissée depuis des années, et qui se sont dit mais en fait on va faire une société ferroviaire coopérative, collective, en proposant aux personnes de ces territoires-là d'être acteurs et actionnaires de cette action-là. Et c'est une histoire magnifique parce que c'est pas de dire on est contre la SNCF, c'est de dire regardez ces lignes-là qui ont été abandonnées, ben nous citoyens qui vivons sur ces territoires-là, on va faire en sorte de monter une compagnie de chemin de fer.
On se soulève.
C'est magnifique. Oh, donc ouais. C'est exceptionnel et donc on va partager comme ça. Une centaine de désespoirs et une centaine d'énergies qui seront des grandes peintures que l'on réalise avec un artiste qui s'appelle Benoît Bonne-Maison-Fit, qui est un très grand ami avec qui on travaille depuis très longtemps et qui va peindre comme ça à la fois ses énergies et ses désespoirs et montrer qu'en fait, on doit vivre avec les deux. Et que ce fameux trouble contemporain de notre existence, et on le voit même des semaines et des mois que nous venons de passer, ben voilà, on doit à la fois en avoir conscience, on doit aussi accepter de se positionner et de trouver l'énergie qui nous permet de continuer d'explorer et presque de... C'est pas être condamné à y croire, mais il y a un peu de ça, de dire... on sent que la pente de la chute, elle est très très facile. Enfin, elle est là, quoi. Elle est vraiment très proche. Et donc, on a envie de mettre cette énergie-là...
Une belle impulsion pour faire plus que la petite contribution du colibri
et
transformer plus massivement.
Exactement. En sachant aussi que si on regarde le changement climatique et les accords de Paris qui est l'idée de rester en dessous des 1,5 degrés d'élévation des températures, tout un tas d'études très précises montrent que les parts individuelles ne représentent que 25% de cet accord-là. C'est-à-dire que si on fait tous nos petits gestes, éco-gestes ou autres... Si on fait tout, c'est-à-dire que de trier ses déchets, de consommer moins, de voyager moins, etc., en fait, on pourra obtenir que 25% de l'effort global qu'il faudrait mener. Donc, c'est-à-dire que les gros efforts sont structurels, sont politiques, sont des efforts de civilisation presque. Ça, c'est important parce que sinon, c'est trop facile de dire à la personne qui prend sa voiture, ou la crise des Gilets jaunes aussi était là-dessus, de dire mais c'est vous qui polluez, etc. Mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet, il est à une échelle globale, collective et sociétale. Parce que la somme des efforts ne représentera pas plus que 25% de l'effort global que la France, par exemple, pour prendre ce pays, devrait mener.
Donc c'est, mais à la fois, il y a ce truc des 25%, c'est chacune des personnes qui, dans sa vie personnelle, commence à transformer ses habitudes, à une conscience qui se développe, et donc, dans son métier au quotidien, va pouvoir...
agir
le temps long.
Exactement. Mais c'est important d'avoir aussi cette exigence, on va dire, d'objectivité. De dire que c'est pas parce que vous triez vos déchets que vous allez éviter le réchauffement climatique. C'est triste à dire.
Ouais, bien sûr. J'enchaîne avec la question insensée. On va être sur des questions plus courtes. Enfin, on va dire, les questions sont pas si longues, mais les réponses, elles vont être plus courtes. La question insensée que je te propose, peux-tu nous définir le vide? Ta définition.
Le vide. Le vide, c'est un joli mot. C'est un joli mot, c'est une promesse. Moi, je le définirais comme une promesse, plus que comme une perte. Et donc, parce que le vide, qu'il soit spatial, mental, c'est la promesse qu'il va pouvoir accueillir une altérité, accueillir une surprise, accueillir quelque chose d'autre. Donc, moi, je dirais que le vide, c'est une promesse et un potentiel.
Très bien, merci. Nicolas, pourquoi tu fais ce que tu fais?
Pour quelles raisons profondes? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Je pense qu'il y a une grande curiosité, presque préexistante, à comprendre, à explorer, à partager des intuitions, à partager des sensations. Je pense que c'est un des moteurs principaux de mon métier, de ma pratique. Et l'autre chose aussi, c'est cet aspect éminemment collectif de ce métier, dont là je parle, mais en fait que je ne pourrais jamais faire seul et que je fais avec mes amis, avec les gens avec qui on travaille, avec les partenaires qu'on a sur des projets. Et c'est ça aussi, c'est ce sentiment qu'on participe à un groupe qui est plus que la somme de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est ces deux choses qui me portent dans ce métier.
J'entends la notion de mouvement collectif derrière. Quel est le dernier risque que tu as pris?
Alors, le risque, quel serait-il? Par exemple, on a pris un risque sur un projet assez récent qui était l'idée sur le site d'ailleurs de Saint-Vincent-de-Paul, donc des Grands Voisins, qui est un ancien hôpital qui a été pendant 8 ans un lieu d'expérimentation avec les Grands Voisins. Et il y a eu un concours d'architecture lancé pour faire une école et un gymnase et un lieu social collectif. Et donc du coup là, on a voulu prendre un risque d'aller au-delà de ce qui nous était demandé et de considérer qu'on pouvait vraiment hybrider les fonctions et accepter qu'une école puisse partager des espaces avec des jeunes artisans ou des jeunes artistes, etc. Et donc là, c'était un risque de programmation qui n'a pas eu de succès parce que certains ont considéré que la complexité que l'on proposait était trop loin des habitudes d'avoir des silos justement fonctionnels. Et donc ça, c'était un risque qu'on a apporté avec beaucoup de fougue et beaucoup de courage et voilà, qui n'a pas été reçu, mais ça fait partie du risque, je pense. Voilà. Et après, il y a eu d'autres risques qu'on a pu prendre, notamment la Biennale de Venise, où on a fait donc cette grande exposition sur les lieux infinis dans le pavillon français. Et en parallèle, on a une photo juste derrière, on avait décidé d'avoir aussi un lieu d'expérimentation qui est une ancienne caserne située sur l'île du Lido. Et donc là, on a dit, on ne va pas faire uniquement le pavillon français, on va aussi avoir un lieu qui fait la démonstration en acte de ce qu'on est en train de montrer dans l'exposition. Et donc là, ça a été un risque gigantesque de mettre une partie du budget, de l'énergie, du montage de ce projet-là pour avoir un projet parallèle de notre projet initial, mais qui donnait du sens au projet initial. Et donc ça, c'est des risques qui nous portent parce que ça se joue vraiment à des moments où on se dit on y va, on n'y va pas. Et c'est ce qui réécrit toute l'histoire une fois que vous avez décidé d'y aller. Donc voilà, il y a des risques à prendre. Et je pense qu'on a un moment où il faut prendre plus de risques, parce qu'on a peut-être ce qu'on pourrait appeler une crise de risque, qui est l'idée de ne pas oser parce que, voilà, fragilisé ou ne sachant pas où on va, on ne sait
parce
pas.
Parce qu'on a peur.
Parce qu'on a peur, certainement. Voilà.
Nicolas, qu'est-ce qui est sacré à tes yeux ?
Alors, le sacré, c'est certainement le vivant. Et c'est cette idée un peu de Philippe Descola ou autre, qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes et la nature, que ce n'est pas l'un dans l'autre, et que c'est cette conscience globale qui peut et doit être notre seule obsession. Ça serait une chose. Et la deuxième chose qui en est un corollaire, c'est ce rapport à l'injustice. C'est ce rapport à refuser toute forme d'injustice, qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Et c'est un rapport entre la justice et la justesse. C'est-à-dire comment on arrive à doser ce qui est juste. Tout à l'heure, on parlait de l'attention. Et là, le mot juste aussi, il est assez beau, parce que c'est la juste mesure, c'est la juste matière, la juste action, et aussi c'est la justice de ce qui est produit. Et on ne peut pas déconnecter une beauté, par exemple, qui produirait une injustice gigantesque, elle disparaîtrait. Donc je mettrais le vivant et ce rapport au juste.
D'accord, j'aime beaucoup cette définition. On parlait de la peur tout à l'heure. Je voulais te poser la question, justement, quelle était ta plus grande peur ?
La peur de se tromper, dans le sens où on aurait oublié une des hypothèses de départ, où tout d'un coup on serait passé à côté de quelque chose et on aurait construit une pensée sans avoir vu qu'il y avait en fait quelque chose de plus.
Un éléphant au milieu de...
Ouais, un petit peu, ou en tout cas, quand on défend une forme de complexité, on est toujours en fait dans la crainte d'oublier une part de la complexité. Alors que quand vous dites, moi je veux que les choses soient noires ou blancs, ben, vous avez pris votre couleur et puis vous y allez. Mmh. Nous, on est plutôt sur des niveaux de gris, et du coup, une des peurs, c'est de se dire, il y a peut-être, ou pas des niveaux de gris, peut-être l'arc-en-ciel au complet, et se dire, est-ce qu'on a bien toutes les couleurs, ou, voilà, ça c'est quelque chose qui... Et c'est marrant, parce que c'est là, vraiment, le fait d'être concepteur, c'est à la fois avoir une grande confiance et avoir des grands doutes. Et c'est avoir confiance dans ses doutes, et c'est douter de ses confiances. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Et c'est vraiment renverser les deux.
J'ai l'impression que tu viens de rentrer dans ma tête.
et en fait, c'est ces allers-retours-là qui sont certainement durs à vivre, mais j'ai le sentiment que quand on passe de l'un à l'autre, en tout cas, moi, les gens avec qui j'apprécie travailler, c'est les gens qui ont aussi cette capacité à avoir une vision et à foncer, et puis tout de suite aussi à douter de cette vision-là et à la remettre en cause. Et je trouve que c'est... Et pour moi, c'est pas un signe de fragilité. Au contraire, c'est un signe de grande humanité.
Mmh. Et parfois, la source de quelques maux de crâne.
Exactement.
y a-t-il un conseil que tu aimerais donner à Nicolas ado ?
Quand j'étais moi-même ado ?
Ouais.
Les 100 un conseil pour changer les choses ou pour
là tu peux lui parler, là il est là, il t'entend, il t'écoute.
Non, c'est mais c'est peut-être ce rapport entre la confiance et le doute, hein, de dire que c'est vraiment les deux piliers, ils vont être ceux-là, et il faudra savoir passer d'un à l'autre, et d'avoir vraiment des moments où il faut s'écouter intimement, et d'autres où il faut aussi accepter de douter de ce que l'on croyait il y a 5 minutes, et que c'est pas grave, en fait.
Ouais. On arrive très proche de la fin. J'arrive à cette question de la fin qui va être en compagnie de mon amie Ashanti. Elle m'accompagne sur toutes les interviews. C'est un peu la baguette magique du podcast, et tu vas pouvoir faire un vœu. Je vais te la prêter, tiens. Tu vas pouvoir faire un vœu pour que le monde fasse un peu plus de sens. Quel vœu serait-il ? Est-ce que tu peux nous le partager au micro ?
Un vœu pour qu'il y ait plus de sens. Quel serait le vœu ? Là, c'est un peu vertigineux, mais c'est peut-être ce rapport aux énergies justement collectives qui sont dormantes, qui sont présentes et qui certainement ne demandent qu'une étincelle, qu'un espace pour s'exprimer. Nous, c'est ce qui est très touchant sur beaucoup de projets sur lesquels on peut travailler, c'est que des fois, on se rend compte que c'est un détail qui va permettre la magie. Et je pense qu'il faut retrouver cette magie de nos vies, de cette aventure humaine, de ce vaisseau spatial qu'est la Terre projetée dans l'univers. Et le vœu, c'est qu'on prenne soin de ces étincelles, peut-être, et qu'on s'autorise à ce qu'il y en ait plus, qu'elles soient plus nombreuses, qu'elles soient plus disponibles, plus accessibles. Mmh. Voilà. C'est un vœu d'étincelle.
Super. Voilà. Merci beaucoup. Pour clôturer cette interview, y aurait-il quelqu'un qui fait un vœu d'étincelle ou qui est en train d'œuvrer que tu aimerais que j'invite sur le podcast Insensé?
Alors, quelqu'un...
Quelqu'un qui aurait aligné ce qu'il fait et ce en quoi il croit et qui a une certaine forme de vibration à tous les niveaux.
Ça pourrait être... Oui, ça pourrait être... Un ami qui a décidé d'être enseignant dans un lycée agricole, qui s'appelle Frédéric Rouziès, et qui, après avoir travaillé dans la radio, à Radio France, etc., a décidé de s'engager dans l'accompagnement des jeunes générations du monde agricole. Donc, il mélange à la fois un enjeu culturel, d'agriculture et de culture. Et donc c'est quelqu'un qui cherche à aligner pour le coup ses visions sur le monde et en quoi ces visions elles n'ont de sens que si elles sont partagées et que si on permet à d'autres d'y accéder ou en tout cas d'avoir conscience qu'elles existent. Donc ça serait un très beau portrait.
Hâte de le découvrir.
Voilà.
Merci beaucoup Nicolas, c'était passionnant.
Et ben avec plaisir.
À très vite.
Au revoir.
Merci pour votre précieuse écoute. Partagez cet épisode à une personne qui vous est chère, qui peut-être traverse un burn-out ou est en quête de sens, ou peut-être simplement en période de transition. Le podcast Insensé est ici pour semer des graines, s'aligner et inspirer. Je vous invite donc à semer des graines avec moi. Si cet épisode vous a plu, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou simplement dites-le nous sur Instagram, @insensé_. Sachez que derrière le podcast Insensé, il y a un magicien du son, Benjamin Roa, un chic type de Marseille qui a lancé Station Whoosh. Sa promesse, un grand respect des oreilles des auditeurs et auditrices pour une qualité d'écoute confortable. Il travaille le rythme, les enchaînements, les respirations, les bruits de micro et j'en passe. Je le salue et le remercie. Sachez que tous les liens utiles et censés mentionnés dans l'épisode se retrouvent dans la description de celui-ci sur votre app d'écoute favorite, y compris les coordonnées de Benjamin du Station Whoosh. À dans un mois! Comprenez bien le sens, qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens, non, ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens, mettez-vous sans dessus-dessous, car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.
Waouh ! Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain. Craquer au bureau.
Bosh !
Réfléchissez. La vie a-t-elle un sens? Qui suis-je?
Il est complètement fou, ce mec!